franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Ma vie, c'est le hasard, disait-il souvent en souriant. Et il souriait beaucoup. Un sourire doux et bienveillant, des yeux rieurs et la carrure de rugbyman qu'affichent à leur une ce matin bon nombre de journaux. Pierre Tchernia est donc mort hier à l'âge de 88 ans et toute la presse revient sur le parcours de celui qu'on appelait Monsieur Cinéma. Mais il était surtout un pionnier de la télé. Ainsi que le rappelle Sylvain Merle dans Le Parisien, journaliste, réalisateur, animateur, inventeur. Il était de l'aventure du tout premier JT en 1949. Il était là encore pour le tout premier reportage en couleur. Il était là pour les premiers directs pendant près de 60 ans. Il a imaginé des programmes à l'appel ancrés désormais dans la mémoire collective des téléspectateurs, de l'actu satirique avec la boîte à sel, de l'info sérieuse avec 5 colonnes à la une, du divertissement. La piste aux étoiles, des programmes pour enfants, l'ami public numéro 1, et puis bien sûr du cinéma. C'était le jeu Monsieur Cinéma, devenu Mardi Cinéma. Il nous a appris la passion du cinéma, la connaissance pas pédante et l'humour bienfaisant, a tweeté hier Pierre Lescure, patron du Festival de Cannes, tandis que son prédécesseur Gilles Jacob expliquait que Tchernia avait rendu le grand public cinéphile sans qu'ils s'en aperçoivent. Hommage unanime dans les journaux ce matin, tous évoquant la mort d'un des derniers géants de la télévision, un géant attachant dont la carrière fut relancée par l'émission d'Arthur, Les Enfants de la télé. « Ma vie, c'est le hasard », disait-il souvent en souriant et en rappelant que son père était immigré ukrainien. Ses ancêtres n'étaient donc en rien des Gaulois. Et pourtant, si la presse lui rend un tel hommage, c'est bien parce qu'il fut l'un des pères de la télévision française. Le père de Pierre Tchernia n'était donc pas français, mais il s'était réfugié en France, la France terre d'accueil. Mais aujourd'hui, tout montre que l'époque a franchement changé.
Oui, et pour preuve, les défilés qui se sont déroulés hier.
De l'Essonne au Var, en passant par Montpellier et par la Drôme, dans 4 communes, des centaines de personnes ont manifesté hier pour dire leur refus d'accueillir des migrants venus de la jungle de Calais, la France. Terre de repli. Cependant, il en est qui déploie à l'inverse une belle énergie pour accueillir au mieux ce que la misère ou la guerre a contraint à l'exil. Lire notamment dans Elle le portrait de 3 jeunes parisiennes qui ont compris que l'intégration passait par le langage. L'intégration sur le bout de la langue, c'est le titre du papier qui nous explique donc le projet que mènent bénévolement Judith Akien, Héloïse Nio et Jennifer Leblon. Comment aider les réfugiés en le transmettant le savoir le plus essentiel pour vivre et pour travailler dans notre pays, en l'occurrence la langue française. Il y a quelques mois, les 3 jeunes femmes ont ainsi fondé une école, école qu'elles ont baptisée Thoth, en référence au dieu égyptien du savoir, une école gratuite pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, école financée par des dons. Les élèves sont originaires de Syrie, du Soudan, d'Érythrée, du Tchad, d'Afghanistan. Tous pourraient sans doute dire que leur vie, c'est le hasard. Et après avoir suivi 10 heures de cours de langue par semaine, ils passeront dans quelques jours l'examen pour obtenir un diplôme d'aptitude au français reconnu par l'État. Un pari ambitieux, un pari généreux et au départ une certitude qui sonne comme une évidence. Se comprendre est bien la clé de l'intégration.
Toute la presse revient par ailleurs sur les outrances sexistes du milliardaire Donald Trump.
Les dernières révélations des médias américains l'ont amené hier à présenter des excuses. Mais il est aujourd'hui lâché par une partie des membres du Parti républicain. Trump, dans la tourmente, commente le Télégramme, tandis que le journal du dimanche juge qu'il est au bord du gouffre à quelques heures seulement de son deuxième débat face à Hillary Clinton. Les journaux reviennent également sur l'action menée par les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Des opposants qui ont montré leur force hier, comme le titre Presse Océan, 12 800 manifestants selon la préfecture et 40 000 selon les organisateurs ont arpenté les chemins de la zone à défendre afin de prévenir le gouvernement. Toute tentative d'évacuation de la zone, tout commencement de travaux rencontrera l'opposition de milliers de personnes. Nous sommes là, nous serons là, a plusieurs fois lancé la foule, ainsi que le rapporte le site Mediapart, précisant que les manifestants ont planté des bâtons sur place en signe de leur engagement, bâtons qu'ils sont censés venir récupérer en cas d'évacuation. Ils ont la répression, nous, on a les bâtons, c'est la situation qui sert de titre à l'article. Mediapart, qui se fait par ailleurs l'écho de la grande préoccupation des services de renseignement face à la candidature de Nicolas Sarkozy et face à l'éventualité de son retour à l'Élysée, à la DGSI. Ce FBI à la française qu'il a lui-même créé, comme dans les autres départements de la surveillance hexagonale, on n'a toujours pas digéré sa décision de supprimer les RG, les renseignements généraux, mais au-delà de son action passée, c'est surtout son programme et son comportement qui, semble-t-il, inquiète les espions français engagés dans la lutte contre le terrorisme. En la matière, son programme, c'est notamment l'internement administratif des personnes fichées S les plus dangereuses, décision qu'il souhaite faire valider par référendum dès le mois de juin prochain. Jeudi soir, il a même annoncé un deuxième référendum, celui-ci concernant la suspension de l'automaticité du regroupement familial, immigration, sécurité. Nicolas Sarkozy a ressorti son costume bonapartiste du placard, commente Mathieu Goard dans Le Monde, soulignant qu'il est en quête d'un nouveau souffle. Sa campagne traversant actuellement un violent trou d'air, sondage à la baisse, ralliements en série en faveur de Juppé, sans compter les documentaires et les bouquins à charge, revenant sur les affres du quinquennat passé. Parmi ces bouquins, il y a bien sûr celui de son ancien conseiller, le sulfureux Patrick Buisson, dont le pamphlet « La cause du peuple » s'est déjà vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires.
Oui, Patrick Buisson qui s'exprime ce matin dans les colonnes de Nice Matin.
Sa première interview dans la presse régionale et il continue de cogner sur l'ex-chef de l'État, dont il fut pourtant le mentor durant 8 ans. Il prédit sa défaite et sous-entend que son livre n'est somme toute que la réponse du berger à la bergère. « Sarkozy a voulu ma mort, professionnelle et sociale, et j'aurais dû ne jamais prendre la parole pour me défendre », dit-il. Et quand Jérémy Collado l'interroge sur les fameux enregistrements clandestins qu'il a réalisés, enregistrements perçus par l'ancien président de la République comme une trahison, Buisson rétorque qu'il n'y avait là chez lui aucune déloyauté, non, et que c'était le seul moyen de pouvoir disposer d'un verbatim fidèle, et il ajoute cinglant, s'il y a une trahison dans cette affaire, c'est celle de Sarkozy à l'égard de l'électorat qu'il avait élu en 2007. Mais alors aujourd'hui, peut-il encore rebondir, Nicolas Sarkozy? C'est la question que pose à sa une le journal du dimanche. L'intéressé s'est longuement confié au journal. Il tient un meeting au Zénith de Paris cet après-midi et il se dit inébranlable, très fier des chiffres d'audience de son interview de jeudi sur France 2, alors qu'il y avait un match de foot sur TF1, dit-il. Il juge que l'actuel Juppé-mania n'est rien d'autre qu'un phénomène artificiel et il enfonce le clou. Y a-t-il un déplacement où Juppé ait suscité l'amour, une réunion publique où il y a eu du monde, un de ses livres qui ait marché? C'est totalement hors sol, ajoute-t-il, avant d'asséner. Si vous regardez l'électorat de droite, c'est plié. Pour la primaire, c'est moi. Bref, il y croit toujours.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Et là, vous aurez donc reconnu le générique de Monsieur Cinéma, composition de l'ami de Pierre Tchernia, Jacques Calvi, et la voix donc de Pierre Tchernia, qui racontait parfois les aventures d'Astérix. Une voix chaude qui manquera et qu'on aurait bien aimé entendre commenter les dernières infos concernant notre télé. Par exemple, les nouveaux programmes des après-midi de France 2, audience catastrophique. Le Monde évoque le vaisseau Amiral France 2 dans la tempête. On aurait bien aimé entendre Pierre Tchernia également nous parler de la nouvelle émission d'M6 ce soir. Une ambition intime des interviews de politique réalisées par l'animatrice Karine Lemarchand. Elle s'explique dans Le Parisien ce dimanche. Elle explique notamment que elle, son rêve serait été d'être chanteuse et qu'elle est nulle en politique, absolument nulle. Pierre Tchernia nous manque vraiment.
Oui, tout comme Claude Jean-Philippe. Le cinéma a beaucoup perdu parce que Claude Jean-Philippe est mort il n'y a pas très longtemps. Merci Frédéric Pommier.